Que voyez-vous ?
Une tache noire ? Voilà. Non. Oui, c'est là, oui.
Alors, vous me dites quoi ? Une tache ? Un point ? Une étoile ? Un astérisque ? Une araignée ? Voilà. Ben, toutes vos réponses sont vraies, mais sont partielles. Moi, j'attendais que vous me disiez « Je vois une grande feuille blanche ». Ah, quelqu'un l'a dit. Ah, j'ai pas entendu. Ah, très bien, Simone. Alors, je vois une grande feuille blanche avec un petit point noir dessus, ou une petite tache noire dessus. Vous avez dû connaître intimement Kofi Annan. Hein, bien sûr, hein, tout le monde le connaît. C'était un Ghanéen qui a exercé, entre autres, les fonctions de secrétaire général de l'ONU pendant plusieurs années. Et il se plaisait à raconter que quand il était enfant, il avait une maîtresse d'école avait montré comme ça une grande feuille blanche à ses élèves avec une petite tache et leur disait « Qu'est-ce que vous voyez là-dessus ?» Et la plupart des élèves ont dit « Ben oui, une tache. » Mais non, on voit une grande feuille blanche avec une petite tache. Et que voyons-nous dans notre vie ? Est-ce que nous voyons la tâche, seulement la tâche, ou principalement la tâche, ou est-ce que nous voyons la grande feuille blanche sur laquelle le Seigneur veut écrire? Est-ce que ce qui nous frappe, c'est l'immensité de l'amour de Dieu, ou si sont les petites tâches qui restent sur la feuille? Cette petite chose qui pour nous prend parfois un relief disproportionné. Elle peut avoir toutes sortes d'aspects, suivant notre âge, suivant nos circonstances, selon notre vie intime avec le Seigneur. Mais souvent, elle prend une importance démesurée, parce qu'elle nous touche personnellement, dans notre besoin de sécurité, dans notre orgueil, dans notre amour propre. Alors, quelques exemples de tâches. Un examen qui va arriver pour un étudiant. Une entrevue avec un patron pour un salarié. Une échéance pour un commerçant. Mais aussi un incident passé, un espoir déçu, une parole vexante que nous avons entendue de la part de notre conjoint, ou d'un frère, ou d'un ami, et que nous n'arrivons pas à oublier. Et puis, que voyons-nous chez notre frère ou notre sœur? Ça se voit pas très bien sur la... C'est beaucoup mieux là. Si vous venez tous, vous pourrez voir ici. Ouais.
En fait, c'est une peau, hein, et c'est un vilain bouton.
On voit le vilain bouton. Et si on prend un peu de recul, on voit le vilain bouton.
Oh là là, qu'est-ce que c'est bien!
Et si on recule encore, c'est plutôt une jolie personne quand même. Hein? C'était dommage de ne voir que le vilain bouton. Apprenons à nous voir les uns les autres, pas le vilain bouton, mais la beauté de la personne. Vous savez, est-ce que vous pouvez me donner une définition d'un chrétien ? Oui, c'en est une. Il y en a d'autres? Quelqu'un a dit, je trouve que c'est une bonne définition, un chrétien c'est un saint qui parfois malheureusement pêche. Alors que faire? Si la tâche est un péché, il faut identifier le problème et y remédier. Car il faut bien le dire, il y a des tâches sur notre page blanche, sur la page blanche de notre vie, qui sont là parce que nous les avons mises là. Elles sont le fruit de nos actions passées, des mauvaises situations dans lesquelles nous nous sommes placés, par convoitise, par orgueil, par désir de briller. Elles peuvent être le fruit du péché et de nos mauvaises actions, de nos mauvaises pensées. Dans cette situation, nous avons souvent la possibilité d'arrêter avant même que le mal soit fait. Est-ce que vous vous souvenez de Caïn? Qu'est-ce qu'on pense de Caïn? C'est un meurtrier. C'est bien ça? Non, on déconseille généralement. Avant d'être un meurtrier, c'est un envieux. Je vous propose de lire dans Genèse 4, verset 3. Genèse 4, verset 3. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. On voit là qu'une tache noire s'est inscrite sur la feuille blanche de Caïn et que cette tache, il l'a laissée gonfler. Alors que Dieu l'avait averti, lui dit « Attends, t'es sur la mauvaise pente. Tu peux te ressaisir. » L'épître de Jacques nous dit, chapitre 1, verset 14, « Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et qui nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. » Ne vous laissez donc point égarer sur ce point, mes chers frères, dit Jacques. Et je pense que les sœurs peuvent le prendre aussi. Donc Jacques attire notre attention sur le péché qui ne vient pas d'un seul coup, mais qu'il est le fruit d'une absence de réaction de nous face à une convoitise qu'on laisse se développer et nous envahir. Soyons donc vigilants pour ne pas laisser des tâches supplémentaires se faire sur notre feuille blanche. Et aussi pour ne pas attribuer au Seigneur certaines tâches de notre vie qui sont la conséquence de nos mauvais désirs. Et puis il y a des tâches que nous aimons bien. C'est le péché mignon. Oh, qu'il est mignon celui-là. C'est pas grave. Hein? Bon, c'est un goinfre. Enfin, c'est ce que les autres disent de lui. Lui dit, je suis bon vivant. Voilà. Bon. Est-ce que c'est un péché mignon? C'est quelqu'un qui passe toujours d'abord. Oh, je suis un peu fier. Bon. Il y a des péchés que nous aimons bien garder. parce qu'ils nous sont chers. Par exemple, une amitié avec quelqu'un qui nous attire loin du Seigneur. On sait ça. On sait que c'est pas bon pour nous. Mais oui, mais voilà. Un désir de briller en société. Un sport. Il n'y a rien de mal dans le sport. Oui, mais le sport qui nous prend tous les dimanches. Et qui nous empêche d'aller à l'église. Mais parfois, c'est pas possible. On ne peut pas enlever la tâche. Parce qu'elle n'est pas de notre fait. Quelque chose où nous ne pouvons plus agir. Un péché, une conséquence de quelque chose, d'un mauvais choix que nous avons fait dans le passé. Et les conséquences sont là. Et on ne peut plus les changer. Ou alors, il y a des tâches qui sont une infirmité. Quelque chose dont on aimerait bien se débarrasser. Quand on ne peut plus marcher, on aimerait bien avoir ses deux jambes. Quand on souffre, on aimerait bien ne plus souffrir. Alors que faire dans ces cas-là? Je vous propose de regarder à Jésus. En venant à notre Seigneur et en lui confiant notre souci, c'est ce qu'Hélène nous a expliqué tout à l'heure. En lui confiant ce qui pèse sur nous, ce qui nous empêche de nous réjouir en lui. Lui, il connaît le problème. Il savait, en quittant son ciel de gloire, tout ce qui allait lui arriver en tant qu'homme. Il savait que la croix l'attendait, qu'au lieu de l'honneur qu'il avait dans le ciel de la gloire, il allait trouver la souffrance, la honte, l'abandon du Père. Il a vu l'ensemble du tableau, il a vu que son sacrifice était nécessaire pour nous. C'est ce que nous explique l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, qui commence comme ça. « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. » En devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Alors cette tâche, qui est une épreuve, qui est quelque chose que nous devons porter ou supporter, nous pouvons la porter ou la supporter en disant « Le Seigneur la porte avec nous. » L'Épître aux Hébreux nous dit, dans la même pensée, « Gardez les yeux fixés sur Jésus. » Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et il s'est assis à la droite de Dieu. Si lui a pu le faire, si lui qui était pur, saint, puissant, a pu supporter cette humiliation, alors nous pouvons aussi, avec son aide, porter la tâche de notre vie. Et puis, il y a l'exemple de Paul. Paul nous dit, il dit ça aux Corinthiens, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 8, il parle des révélations qu'il a eues. Et il dit, parce que ces révélations étaient extraordinaires, j'aurais pu être drôlement orgueilleux. Parce que ces révélations extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve. Telle une écharde qui tourmente mon corps. Elle me vient de Satan, qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié le Seigneur par 3 fois de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, « Ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Ma grâce te suffit. Alors vous allez me dire, oui, c'est des histoires anciennes que tu nous racontes. Maintenant, on ne réagit plus pareil. Et lui là, vous le connaissez ? Lui qui est né sans bras, sans jambes, juste un petit pied qui dépasse du tronc et qui rayonne de la joie du Seigneur au point de parcourir le monde pour donner son témoignage pour le Seigneur. Pourtant, sa tâche à lui, elle est grosse, mais il la vit avec le Seigneur. Alors je vous invite à chanter vers Jésus, lève les yeux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Remets ta voix à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Psaume 37. Rejette ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Psaume 55. Et puis, apprendre à voir l'ensemble du tableau, apprendre à voir plus loin. C'est pour ça que je vous avais mis une loupe tout à l'heure. Apprendre à voir avec un télescope, apprendre à voir ce qui est au-delà. Ne voyons pas que la tâche, mais toute la feuille, toutes les choses merveilleuses, tous les dons merveilleux que le Seigneur a pour nous, toutes ses promesses, tout ce qu'il fait maintenant, tout ce qu'il fera plus tard, le destin qui nous attend, glorieux, éternel, parfait, infini. 1er Épître aux Corinthiens dit, c'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Parfois, on se pose la question. Tu vois, Seigneur, on a distribué tant de flyers pour ce concert hier. Et finalement, il n'y avait pas tant de monde que ça. Oui, mais il y avait peut-être les bonnes personnes. Paul dit aux Galates, faisons le bien, sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Et dans une autre vision, ça c'est plus pour les personnes âgées que je suis. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alors le Seigneur efface nos fautes. Nous le glorifions pour cela. C'est Michée qui avait écrit cette phrase. Quel est le Dieu semblable à toi qui efface les fautes? Qui lui voit notre page blanche? Parce qu'il a effacé nos fautes. Quel est le Dieu semblable à toi qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient? Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous. Tu piétineras nos péchés et au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. Alors je vous invite, quand nous voyons une tâche à voir si nous pouvons l'enlever. Et si nous ne pouvons pas l'enlever, à la porter avec le Seigneur. Et en se rendant compte que c'est une petite tâche. Dans l'immensité des projets que l'amour du Seigneur a pour nous. Et qu'un jour, tout cela sera effacé.